je vais vous dire, j'ai passé deux séjours en Haïti et je dois dire que j'ai adoré mon séjour là-bas malgré toutes les difficultés que rencontre ce pays. D'abord, je voudrais remercier les gens de l'Organisation des Nations Unies, le chapitre de Montréal, de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être ici. J'ai pris ma retraite il y a 4 mois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pas grand-chose. Sauf que j'ai toujours beaucoup d'intérêt pour l'international, les Nations Unies, le développement général, et ainsi de suite. Monsieur Oli disait qu'on va laisser le côté politique, on va parler un peu plus de questions peut-être de développement. Les Nations Unies étant ce qu'elles sont, la politique et le développement, tout se recoupe aux Nations Unies. On va le voir dans quelques minutes lorsque je vais faire ma présentation. Alors, il y aura 3 volets à cette présentation. Le titre parle d'objectif, l'agenda post-2015. Donc, ce qui va suivre les objectifs de développement du millénaire pour finalement, on appelle maintenant les objectifs de développement durable. Mais je vais ajouter une troisième note à cette présentation qui est toute la question des désastres naturels et des crises. J'ai passé une partie de ma vie dans des endroits où il y a eu des crises. J'ai été au Pérou, j'ai été au Costa Rica où j'ai fait face à un tremblement de terre. Par la suite, je suis allé au Pérou où il y a eu la crise des otages avec le kidnapping de notre ambassadeur et toute l'histoire qui a suivi. Après ça, je suis retourné en Haïti. Là, je me suis ramassé en arrivant en Haïti avec 3 ouragans dans 10 jours. Et 2 ans plus tard, il y a eu le tremblement de terre où j'étais dans mon bureau quand ça s'est produit. Après ça, je suis parti à New York et puis il y a eu un ouragan, l'ouragan Sandy, et il y a même eu un petit tremblement de terre. Alors, inutile de vous dire que vous êtes à côté de moi ce matin, si ça se met à branler, là, et que vous ne posez pas de questions, c'est à cause de moi. Alors, le contexte étant mis, comme j'ai seulement 15 minutes, vous en avez déjà pris 3, les objectifs de développement du millénaire. Bon. Je vais vous dire honnêtement, le bilan, si je fais un bilan sommaire, il y a un certain nombre de leçons apprises. C'était en l'an 2000, lorsque on a eu la fameuse déclaration du millénaire, qui est une déclaration très onusienne, très ambitieuse, mais avec très peu d'engagement, aboutit à des objectifs un peu plus précis en 2002, dans le contexte du consensus de Montréal. On va y revenir dans quelques minutes. Il y a eu un certain nombre de progrès significatifs, il faut bien dire. Alors, notamment, toute la question de la réduction de l'extrême pauvreté et de la faim. Ce qu'il faut par contre prendre en compte, c'est qu'il y a des pays extrêmement importants qui sont passés de pays très pauvres à pays de catégorie moyenne dans 15 ans. Donc, seulement la Chine, à elle seule, a contribué à modifier de façon positive certains de ses objectifs. Donc, il faut mettre ça dans un certain contexte. Donc, l'Afrique subsaharienne est quand même toujours en retard, mais il y a quand même une réduction de 1,9 milliard à 850 millions de personnes qui vivent dans une situation d'extrême pauvreté. L'égalité des sexes a connu des progrès significatifs pour l'éducation des filles, entre autres, l'accès au travail, la participation aux décisions, ainsi que la santé avec la lutte contre le VIH-SIDA, le paludisme et la tuberculose, malgré une certaine résurgence dans les dernières années. La mortalité infantile continue à faire face à de nombreux problèmes. L'objectif de développement du millénaire qui devait être atteint, qui était cible pour 2026, 2015 ne sera atteint qu'en 2026. Et encore aujourd'hui, il y a 16 000 enfants qui meurent tous les jours pour des raisons de maladies liées à la mortalité infantile. L'accès à l'eau potable s'est amélioré, sauf que les changements climatiques ont un impact extrêmement important et ont contribué à ralentir le progrès. L'accès à l'éducation, c'est un objectif qui est presque atteint, sauf qu'on le verra un peu plus tard, tout dépend de l'accès à l'éducation. L'accès à l'éducation ne veut pas nécessairement dire une bonne éducation. Et c'est un des enjeux quand on a des indicateurs de performance qui ne sont pas clairs. L'APD a connu une croissance de 66%, de 81 milliards à 135 milliards, sauf qu'il a quand même connu une baisse nette au niveau du produit national, du produit GNI en anglais, que j'ai traduit par revenu national brut, de 0,5 à 0,32. Alors, là, le Canada figure allègrement dans le groupe des 0,32, mais on a toujours espoir, comme on l'a annoncé il y a 25 ans, d'atteindre le 0,7. On travaille là-dessus. Les résultats maintenant, les résultats plutôt mitigés. Je pense qu'on est sur la bonne voie, sauf qu'on a quand même seulement 3 des 8 objectifs qui ont été atteints. Alors quand même, il y a beaucoup de travail à faire. Il faut dire que les objectifs ont été mis en place pas en 2000, lors de la déclaration du millénaire, mais plutôt au début de 2002. Donc, on commençait un peu plus tard. Il en reste pas moins qu'il y a des retards importants qui doivent être notés. La conception des objectifs a été mise sur le consensus de Montreal, donc axé sur les pays donateurs versus pays récipiendaires. Ça a été un irritant pour les pays en développement, ça a été fait en vase clos, sans grande consultation, on verra que les objectifs de développement durable ont été mis en place de façon différente. C'était un objectif louable, mais c'était vraiment du haut vers le bas top down. Les ODM ont été analysés, évalués en silos. Ça aussi, c'est un des problèmes. On a tendance à prendre l'éducation d'un côté, la santé de l'autre côté, le développement, la réduction de la pauvreté. Alors, l'interaction a fait défaut au cours des différentes études qui ont été faites sur le sujet. Bon, les indicateurs sont parfois mal définis, basés tantôt sur des intrants, tantôt sur des extrants. Le plus bel exemple qu'on peut voir, vous allez voir les objectifs de développement du millénaire. On va dire, à un moment donné, donner un indicateur, c'est du travail décent à la population. Essayez de définir le mot décent. La notion de décence, ici, a une notation très différente que si on est au Mozambique. Ça. Alors, cette question de flux a contribué à rendre l'analyse des avancées assez difficile. On parle à plusieurs endroits, ça prend une amélioration significative. Alors, une amélioration significative, ça veut dire quoi? Encore une fois, les indicateurs flous vont donner des résultats plutôt mitigés. L'objectif 4 de développement du millénaire, quand il cible sur la réduction de la mortalité des enfants en bas de 5 ans, c'est un indicateur clair. L'objectif numéro 2, qui parle d'éducation primaire universelle, c'est un indicateur flou, parce que l'accès à l'école ne veut pas dire, comme je le mentionnais tout à l'heure, des indicateurs clairs. Ça a été conçu par un groupe restreint d'experts qui a hérité plusieurs pays en développement. L'urgence de mettre en place ces objectifs après le retard de 2000 peut contribuer à expliquer ça, mais ça a servi vraiment de leçon pour l'avenir. Par contre, le nombre limité d'engagements, qui s'explique peut-être parce que c'était fait dans un groupe restreint, on va le voir dans quelques minutes, a permis de maintenir le focus, ce qui était quand même un actif compte tenu de la nature des Nations Unies, quand tout le monde veut y trouver son compte, d'avoir un nombre limité d'objectifs, c'était bien. Par contre, l'aspect économique a été quasi oblitéré, en ce sens qu'il n'y avait pas d'engagement vraiment précis là-dessus, ce qui donnait aux ODM une orientation essentiellement sociale. On pourrait dire que le côté social est extrêmement important, sauf qu'ayant vécu dans plusieurs pays en développement, si le développement économique n'est pas au rendez-vous, c'est extrêmement difficile de mettre sur pied des structures de gouvernance, de mettre sur pied des structures de santé et d'éducation. Donc, si pour plusieurs personnes, le développement économique est associé à quelque chose qui est moins important que d'aider les plus pauvres, ça prend une classe moyenne prospère. Haïti est un très bel exemple pour être capable d'assurer une pérennité des questions de pauvreté et ainsi de suite. Maintenant, on va tomber sur les nouveaux objectifs. Je passe très rapidement, j'ai seulement 15 minutes, mais que voulez-vous? C'est à peu près ce que j'ai pu ressortir de mieux. Il y a eu un consensus de l'Assemblée générale il y a un mois là-dessus. Avoir un consensus à l'Assemblée générale, pour ceux qui gravitent à l'entour des Nations Unies, il faut le faire. Et avoir un consensus général sur des objectifs de développement durable sur 15 ans, c'est tout un exploit. Donc, ça, c'est l'avantage. Par contre, avant les objectifs de développement du millénaire, on avait 8 objectifs et 21 cibles. Là, on en a 17 et 169. On n'est même pas rendu aux indicateurs de performance. Ils doivent être mis en place dans les prochains mois. Alors, on peut imaginer le risque d'éparpillement et de flux. Certains analystes, il y a un article dans l'Économiste qui a été incendiaire sur le fait qu'on a produit autant de cibles et d'objectifs, qui l'article expliquait comment ça se perdrait, que la population, les gens en général auraient eu beaucoup de difficultés à suivre. L'approche très participative, c'est un plus. Dans plus de 100 pays, avec des initiatives locales, des rencontres multilatérales, des réseaux sociaux, on peut dire que le consensus, d'ailleurs, c'était la seule façon d'avoir un consensus à l'Assemblée générale. Il n'y a pas eu d'approche top-down, comme je le mentionnais tout à l'heure. Les objectifs sont universels et interpellent cette fois-ci autant les pays développés qu'en développement. En d'autres termes, un pays comme le Canada et un pays comme les États-Unis, nos voisins, devront indiquer quel genre d'efforts ils vont faire, eux aussi. Donc, ce n'est pas seulement celui qui donne de l'argent à celui qui en reçoit, qui est là pour essayer de tout simplement dire, bon, comment as-tu fait tes devoirs? Les pays en développement aussi peuvent se retourner, et les vôtres. Donc, de ce côté-là, ça explique aussi la raison pour laquelle il y a eu un consensus. Par contre, il y en a eu de tout pour tous. À 17 objectifs et 169 cibles, les groupes de pression, le G77, tout le monde a pu mettre son grain de sel, donc il y a un risque d'éparpillement. Je vais vous dire honnêtement, je suis un peu sceptique. Maintenant, on verra l'usage. Ça a été approuvé il y a un mois et c'est pour les 15 prochaines années. Donc, par contre, pour éviter l'erreur des ODM, il faut établir des cibles en fonction du retard ou de pauvreté de pays. Les objectifs de développement du millénaire avaient. La majorité des pays se basaient sur des objectifs qui étaient souvent universels, donc des pays d'Afrique partaient de très loin. Ce qui va être très important, c'est de ramener l'atteinte des objectifs en fonction de l'endroit, du moment où se situe un pays par rapport à une cible. Et ça, ça va être extrêmement important dans les indicateurs et comment les pays vont les mettre en place. Il faut s'assurer que les progrès au niveau des objectifs sont évalués de manière exhaustive. Comme je le mentionnais, c'était fait en silo. Maintenant, il va falloir essayer de voir s'il y a moyen de faire du cross-fertilization, là, des analyses croisées. La précision des indicateurs jouera un rôle clé. Leur nombre élevé pourrait rendre l'analyse et l'interprétation des progrès ardues. Un élément fondamental, on parle un peu d'argent hiver, de 10 milliards, et me faisait dire que c'était rien. Là-dessus, par contre, ce que je dois dire, c'est que les investissements nécessaires seront astronomiques. On parle de dizaines, de centaines, de milliers, de millions. On parle de billions en français ou de trillions en anglais. Et la conférence de 10 Abeba qui a eu lieu au mois de juillet pour essayer de jeter les bases de ça ne produit rien d'essentiellement concluant. Donc, disons que, comme on dit, ça commence mal. Surtout quand, à partir du moment où il y a des choses là-dedans qui vont coûter extrêmement cher. L'ECOSOC, maintenant, on parlait du rôle des Nations Unies, de l'importance de l'ECOSOC. L'ECOSOC jouera un rôle central dans le suivi de la mise en œuvre du processus. Pour ceux qui connaissent les Nations Unies, qui connaissent l'ECOSOC, je les connais très bien, je vais vous dire que c'est tout un défi pour l'ECOSOC. Compte tenu de la réputation de l'ECOSOC et de la lenteur dans la façon de faire avancer un certain nombre de dossiers, il va falloir que le secrétaire général actuel et le prochain secrétaire qui sera choisi dans un an puissent leur donner les moyens de pouvoir mener à bien cette opération. Le suivi de ça demandera un engagement extraordinaire et des ressources extrêmement puissantes. L'enjeu, autour des enjeux, une belle phrase, commun, mais à responsabilité variable, a connu un règlement satisfaisant. Je m'explique là-dessus. Des pays comme la Chine, avec le G77, reconnaissaient l'importance de régler un certain nombre de choses, mais ils voulaient faire ça, si je peux dire, à géométrie variable. C'est-à-dire que nous, on reconnaît l'importance, mais compte tenu qu'on est un pays un peu moins pauvre, on devrait en faire un peu moins dans un certain nombre de choses. Et ça, un pays comme le Canada, un pays comme les États-Unis, l'Australie, et ainsi de suite, on fait beaucoup de pression pour éliminer cet aspect-là. Alors, tout le monde, en principe, est traité du même pied, et on ne peut pas faire valoir une option de retrait partiel sous prétexte qu'on a un niveau de développement moins élevé, notamment la Chine, qui, de façon très opportune, s'alliait toujours au G77 là-dessus. L'implication de la société civile et du secteur privé dans les négociations est un élément positif, et tous ceux qui suivent les situations au niveau des Nations Unies se sont devenus des incontournables, surtout le secteur privé, si on veut être capable d'aller chercher les ressources financières suffisantes, il faut impliquer davantage le secteur privé. Maintenant, les crises humanitaires. La raison pour laquelle j'ai voulu en parler, c'est que lorsque j'ai regardé avec attention, il me reste combien de temps? OK, super. Alors, les crises humanitaires. La raison pour laquelle je voulais en parler, c'est que lorsqu'on regarde les 17 objectifs et les 169 cibles, on parle très peu des crises humanitaires. En fait, on en parle à 3 ans. Ben, en fait, oui, il y a 2 endroits, là, d'ailleurs. Ben, c'est ça, vous avez le dernier mot. On parle à la au numéro. Vous les connaissez par cœur?
Non.
11, 5, 10 fois. Ça, c'est le. Donc, voilà, ici. Sur l'élément qui traite des villes, pour la première fois, c'est quand même une bonne chose, on parle ici, à 2030, de réduire nettement le nombre de personnes tuées, le nombre de personnes touchées par les catastrophes, y compris celles qui sont d'origine hydrique, donc les catastrophes reliées à l'eau. Ça ne parle pas des tremblements de terre, mais enfin. Et réduire nettement le montant des pertes économiques. Donc, on adresse cette question-là, on traite de cette question, et dans le 11B, qui doit expliquer un peu comment ça va se faire, c'est d'ici à 2020, accroître nettement le nombre de villes d'établissements humains qui adoptent et mettent en œuvre les politiques et plans d'action intégrés de façon en faveur de l'insertion, de l'utilisation rationnelle des ressources, et j'en coupe un bout, et l'adaptation aux effets de changement climatique et de leur atténuation et de la résilience face aux catastrophes. On voit le mot catastrophe. Alors, vous avez un peu raison, on en parle à peu près pas. Et je vais vous dire honnêtement, quand on pense que depuis 20 ans, il y a 4,5 milliards de personnes qui ont été touchées par des crises humanitaires. Je dis crise humanitaire parce que ça peut être des désastres, ça peut être des guerres civiles et ainsi de suite. Et qu'il y a eu 1,3 million de morts et 2 milliards de dégâts qui ont affecté surtout les pays les plus pauvres. On peut se poser la question pourquoi on n'en a pas fait le cas. Vous avez peut-être une réponse, je vais vous entendre avec plaisir là-dessus. Et les risques de désastre iront en augmentant, avec un accroissement de la population et des zones à risque et des changements climatiques. La gestion des risques touche la santé, l'éducation, les infrastructures, l'agriculture, l'eau et j'en passe. Donc, on peut se poser la question. Intégrer la résistance aux désastres à l'intérieur de plusieurs objectifs et de cibles en occultera l'importance. Alors, si on retrouve un peu partout, ça va être extrêmement difficile de pouvoir apporter une amélioration. Et je vous ai expliqué tout mon background en termes de désastre, pas que je courais après, mais que je me suis impliqué, je me suis trouvé dans des situations. Je prends le cas d'Haïti, où en Haïti, on a une protection civile relativement bien efficace quand elle a des moyens, mais quand on regarde les dégâts occasionnés par le tremblement de terre, avec des meilleurs plans à un coût limité, on aurait pu éviter la situation qu'on a connue, au moins en atténuer les risques. Juste une petite anecdote, en 1776, la ville de Port-au-Prince avait émis un décret interdisant la construction d'édifices en pierre ou en béton, le béton existait à l'époque, à cause des risques de tremblement de terre. On a vu le résultat, si vous allez à Port-au-Prince, 99,9% des maisons sont en béton et mal construites. Donnez-moi deux minutes. Entre collègues, hein, il y a mes petits. Alors, les risques de désastre iront augmentant. Renforcer la visibilité de la résistance aux désastres dans la liste des indicateurs de préparation. Ce serait facile. Réduire de moitié le nombre de mortalités des désastres d'ici 2030. On pourrait dire quelque chose comme ça. Réduire de moitié les pertes économiques liées aux désastres d'ici 2030. Ce serait un indicateur clair. Tous les pays en développement devraient avoir un plan national de réduction des risques et de résistance aux désastres d'ici 2020. D'ici 2025, allouer 25% du budget national dans la résistance de réduction. Ce sont des choses. Juste pour vous dire, on parle souvent des pays en développement. Quand j'étais à New York, après l'ouragan Sandy, on voyait partout dans les systèmes d'autobus, c'était indiqué « In case of disaster, be prepared, make a plan ». Et ça, c'était dans la ville de New York, qui était très mal préparée à l'ouragan Sandy, soit dit en passant. Alors, vous voyez, c'est pas juste le cas, la situation des pays en voie de développement. Accroître la préparation et la résistance face aux désastres est au centre du développement à long terme de tous les pays. Et la gestion des désastres et des crises humanitaires doit être au centre de l'agenda du développement. Et enfin, les coûts générés par la gestion des crises et des désastres est 20 fois plus élevé que ceux alloués à la prévention et à la résistance. Alors, je vous la fais mon pitch sur les désastres naturels, je l'ai fait. Merci beaucoup.